sur la route des vacances, vous voyez parfois un panneau avec le sigle d'un monument historique qui vous dit, par exemple, qui indique par ici une église du XIIIe siècle ou une église du XIe siècle. C'est, en France, on trouve des très vieilles églises, des vieux bâtiments. Mais cet été, justement, nous visitons cette église, cette ville, cette église du premier siècle, donc encore plus ancienne. Et ce matin, nous allons à Smyrne, la ville de Smyrne, c'est en Turquie, c'est Izmir aujourd'hui, c'est une des seules villes de l'Apocalypse qui est encore aujourd'hui une grande métropole. Donc nous allons à Izmir, à Smyrne, et je vous invite à lire avec moi en Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affection et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors supposons que vous déménagez dans une ville, cet été par exemple, et puisque vous savez qu'une église est indispensable à la vie chrétienne, vous vous mettez à choisir une église, à visiter des églises. Et supposons que les 7 églises de l'Apocalypse étaient vos options, vos seules possibilités. Quelle église choisirez-vous? Humainement parlant, il n'y a aucune qui donne vraiment envie. Nous avons déjà étudié Éphèse, c'est une église sans amour. On vient de lire Smyrne, on va en parler, vous allez voir que ça ne donne pas vraiment envie. Pergame et Thyatire enseignent des hérésies de plus en plus graves. Sardes, Jésus dit que c'est une église morte. Philadelphie, elle est toute petite avec peu de puissance. Et Laodicée, ça donne à Jésus envie de vomir. Alors, entre les 7 églises, laquelle allez-vous rejoindre? Déjà, ce qui est fort, c'est que Jésus semble vouloir fréquenter chacune, ou bien, en tout cas, les aider à devenir des églises dignes de sa présence. Mais l'église que nous allons regarder ce matin serait probablement votre dernier choix même, l'église de Smyrne. Parce que si vous fréquentez l'église de Smyrne, c'est la prison ou le martyr, très probable. Et pourtant, c'est une des seules qui ne reçoit aucune reproche de la part du Seigneur, cette église souffrante mais fidèle, une église persécutée, et c'est d'elle que nous allons parler ce matin. Mais déjà, je me dis que de notre situation confortable, dans un pays libre, c'est toujours un peu délicat de parler de l'église persécutée, en tout cas pour moi. Quand je pense à des épreuves et des souffrances que peuvent vivre d'autres, je compare notre situation. Une épreuve, déjà, ma foi et ma fidélité et ma joie, des fois, semblent m'être mises à l'épreuve quand il y a un tracteur sur le national qui bloque la circulation, ou quand j'ai pas assez de bars, j'ai un bar du 4G et pas 3 ou 4. Est-ce que des fois on appelle ça, nous, épreuve? Donc vous voyez, on peut en parler de l'église persécutée, on n'est pas toujours en bonne position pour en parler, ou bien on peut même s'en intéresser pour des mauvaises raisons. Certains vont s'intéresser de l'église persécutée juste assez pour se donner bonne conscience entre 2 baignades, même si c'est cette semaine passée que j'étais en vacances, alors c'était pas évident d'avoir ce message en tête en étant dans des lieux très agréables. Bien d'autres vont parler de l'église persécutée pour culpabiliser les chrétiens. Regardez ceux qui vivent et nous, avec tant d'aisance, alors vous êtes des chrétiens mous. Mais il faut aussi dire que nous ne sommes pas Dieu pour choisir dans quelles circonstances, à quelle époque nous allons vivre. Ce n'est pas une faute d'être né en France à cette époque et de vivre l'Église ici. On voit que même parmi les sept églises de l'Apocalypse, qui sont dans la même région à la même époque, tous ne sont pas appelés au même défi, tous n'ont pas les mêmes problèmes. Donc on ne veut pas non plus se culpabiliser juste parce qu'on n'est pas l'Église persécutée aujourd'hui. Et il peut y avoir même un intérêt malsain en exagérant la spiritualité de l'Église persécutée. Dans les premiers siècles, un peu inspiré de ces passages sur le martyr, il y avait le culte des martyrs qui a pris un ampleur néfaste. C'est vrai qu'on a des héros dans la foi, mais de là à en faire un culte aux martyrs, comme a fait l'Église après, jusqu'à certaines vouloir rechercher le martyr comme un passeport au ciel. Où après est née la pratique bizarre des reliques, où on va collectionner les ossements de ces martyrs pour en faire des objets d'adoration, tout ça. Et c'est pas la raison pour laquelle nous voulons nous intéresser à l'Église persécutée. Donc vous voyez, ce n'est pas facile d'en parler. Nous ne sommes pas dans une position facile, nous, pour parler de l'Église persécutée. Pourtant, nous faisons bien de nous y intéresser. Vous voyez qu'ici, on étudie tout au long de cet été ce que Jésus dit à chaque église. Et chacune des sept églises reçoit un message spécifique, un message particulier, mais chaque église a aussi besoin d'entendre ce que Jésus dit aux autres églises. Puisque c'est une lettre groupée, Jésus a quelque chose à dire à chacun, mais il invite toutes à écouter ce qu'il dit aux autres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, dit verset 11. Donc nous, le BTM, nous avons besoin d'entendre Jésus parler à cette église de Smyrne, cette église souffrante, cette église persécutée, pour nous mieux vivre notre foi et nos épreuves. Pourquoi? Déjà, cela nous rappelle que certaines églises, comme en Inde, ça a été évoqué, vivent les mêmes choses aujourd'hui, et nous sommes solidaires avec eux. Cela nous prépare peut-être à mieux y faire face si jamais c'est notre tour. C'est pas ce que Dieu nous réserve, mais ces mots nous préparent. Et plus généralement, cela nous équipe à vivre toutes sortes d'afflictions, toutes sortes d'épreuves et rester fidèles. Vous avez entendu dans le témoignage de Reyes un parcours de souffrance, mais il a choisi la foi et la fidélité. Avec des promesses comme celle-ci qui l'entourent. Ce genre de passage nous aide à relativiser un peu le Covid et sa menace. Quand on pense à ce que l'Église persécutée est prête à faire pour se réunir et pour vivre sa foi, on a besoin d'entendre Jésus parler à l'Église persécutée. Alors vous voyez que cela soit la prison ou le martyr ou bien d'autres épreuves. Et je sais que même ici, même en France, même dans cette salle, il peut y avoir des souffrances et des épreuves au niveau de la famille, au niveau des enfants, qui peuvent être tout aussi douloureuses et déchirantes pour le cœur, émotionnellement, qu'un séjour en prison. Donc, dans tout ça, ces paroles de Jésus à Smyrne et son appel à la fidélité peuvent nous aider encore et nous encourager ce matin. Alors le but, le projet, c'est d'être fidèle à ce Christ malgré les afflictions, malgré les souffrances, comme nous avons chanté, comme Ries nous a montré. Alors qu'est-ce qui peut nous aider à être fidèles? Plusieurs réflexions ce matin dans ces paroles. Premièrement, Jésus connaît nos afflictions. Nous pouvons être fidèles parce que Jésus connaît nos afflictions. Ensuite, Jésus limite nos afflictions. Et enfin, Jésus nous ressuscite après nos afflictions. Voyons ces paroles d'encouragement à l'église de Smyrne. Tout d'abord, Jésus connaît nos afflictions. Verset 9, c'est ce qu'il dit, « Je connais ton affliction. » Jésus connaît parfaitement tout sur toutes ces églises et chaque fois il commence ainsi avec ce qu'il connaît, mais là il dit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Je connais ton affliction. Une des choses les plus difficiles à supporter dans la souffrance, dans l'épreuve, c'est l'impression que personne ne connaît ce que l'on vit. C'est que personne ne connaît vraiment notre affliction, notre souffrance intérieure. les métiers de ceux qui accompagnent les affligés, les souffrants, que ce soit les thérapeutes ou les médecins, sont précieux. Mais parfois, il y a une limite dans ce qu'ils peuvent faire, ne connaissant pas exactement ce que l'autre vit. Il faut être dans la peau de la personne. On ne connaît pas tout. Et des fois, le meilleur soutien, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement, qui connaît intimement ce que l'on traverse, ce que l'on vit. Et donc déjà, d'entendre Jésus dire « Je connais ton affliction », c'est une grande parole d'encouragement. Il dit « Je connais ta pauvreté ». C'est un peu étonnant parce que Smyrne était une grande ville, une ville riche, capitale de commerce. Alors que les chrétiens soient pauvres, déjà ça montre certainement une exclusion dans les milieux professionnels ou des freins à cause de leur foi. Ils n'avaient pas ils pouvaient pas accéder au poste ou aux professions qui existaient. Donc, voilà un groupe de chrétiens qui sont pauvres, certainement à cause de leur foi. Jésus connaît cela. Il dit aussi, je connais les calomnies de ceux qui vous entourent. C'est vrai, il faut dire que les chrétiens du premier siècle étaient souvent calomniés. Ils étaient, par exemple, traités de cannibales parce qu'ils prenaient le repas du Seigneur. Il y avait le pain qui représente le corps de Christ, la coupe qui représente le sang de Christ. Nous allons en faire semaine prochaine. Mais voilà, de loin, les gens entendaient, on va manger. Ils faisaient une amalgame, on va manger le corps et boire le sang. Voilà, les cannibales. D'autres disaient, voilà, c'est des incestueux. Ils parlent d'aimer frères et sœurs. C'est ce langage chrétien fraternel. On aime les frères et sœurs, rien à voir avec l'inceste. Mais ils étaient traités d'incestueux. Et surtout, ils étaient traités de blasphémateurs. Le mot calomnie ici, c'est surtout blasphémateur. Et il faut dire que les chrétiens du premier siècle étaient un peu entre le marteau et l'enclume, entre les Romains d'un côté et les Juifs de l'autre côté. Les chrétiens, avaient des croyances qui ne s'accordaient pas ni ce que les Romains voulaient voir, ni ce que les Juifs s'attendaient. Pour les Romains, c'était blasphème de dire que Jésus est seul Seigneur. Okay. Pas César, pas tout ce panthéon des dieux. Jésus est le seul Dieu, le seul Seigneur. Pour les Romains, ça c'est blasphème. Et pour les Juifs, c'était aussi blasphème de dire que Jésus est Dieu, parce que ils voulaient préserver le monothéisme pur, et donc de dire que Jésus, ce Messie qui s'est incarné, le Fils, il est Dieu, pour eux c'était blasphème. Donc, voilà, ils disaient auprès des Romains, ils avaient ce témoignage que Jésus est seul Dieu, et les Romains, avec leur panthéisme, n'aimaient pas ça. Et puis auprès des Juifs, ils disaient que Jésus est Dieu, et avec leur monothéisme, ils n'aimaient pas ça, ils les appelaient blasphémateurs. Aujourd'hui, les chrétiens, simplement en restant fidèles à la parole, en vivant nos valeurs, en recherchant à garder la famille, on va aussi parfois nous calomnier. Vous êtes des homophobes, vous êtes des anti-républicains. Voilà, on commence à entendre ce genre de paroles envers les chrétiens. Les communistes dans l'Europe de l'Est, il y a quelques décennies, ils avaient ce raisonnement imbattable. Ils disaient, voilà, de nos jours, il faut être fou, il faut être dérangé d'esprit, il faut être dément pour être chrétien. Puisque voilà, maintenant on a la science, on a tout, donc il faut être fou, il faut être dément pour être chrétien. Alors si tu es chrétien, tu as certainement un problème psychiatrique, donc nous avons des méthodes de rééducation, nous avons nos soins pour t'en guérir. Et là, on connaît quelles étaient ces méthodes de rééducation. Donc voilà, tous ces calomnies que Jésus connaît. Et là, Jésus est très encourageant dans ce qu'il connaît, la réalité qu'il connaît. Il dit, le monde vous appelle pauvre, mais moi, je sais que vous êtes riche. D'autres richesses, des richesses éternelles. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Verset 9. Je sais que les Juifs vous calomnient, mais moi, je connais la réalité. Il dit, ces Juifs ne le sont pas vraiment. Jésus appelle ce genre de judaïsme corrompu, qui persécute ceux qui croient au Messie. Il appelle ça synagogue de Satan, c'est très fort. Mais encore, c'est le point de vue de Jésus. Le monde vous calomnie, moi je connais la réalité. Le monde vous appelle pauvre, je sais que vous êtes riche. Et c'est ça qui nous porte aussi dans nos afflictions, dans nos souffrances. Jésus connaît, non seulement parce qu'il sait tout, mais parce qu'il a vécu tout cela. Jésus connaît ce que c'est d'être calomnié par les Juifs et les Romains. Jésus sait ce que c'est d'être traité de blasphémateur pour dire, pour prétendre qu'il est le vrai roi. Jésus sait ce que c'est d'être traité de fou, de complotiste, parce que c'est ça qui l'a conduit à la croix. Jésus sait ce que c'est la pauvreté. Lui qui est riche, il a choisi la pauvreté à partir de la crèche et toute sa vie pour être avec nous. Donc oui, Jésus connaît parfaitement l'affliction de cette église à Smyrne. Et ce matin aussi, Jésus connaît. Vous venez peut-être avec une souffrance secrète. Jésus connaît. Le monde vous a donné un avis défavorable au travail ou parmi les amis parce que, à cause de votre foi, Jésus pense autrement de vous et il sait la réalité. Il sait qu'il est, vous êtes un des siens, son enfant. Et lui, il vous traite avec amour. Il connaît parfaitement nos afflictions. C'est déjà une aide précieuse pour avancer dans la fidélité. Se voir que Jésus marche avec nous, il connaît. Et aussi, nous voyons ici que Jésus limite nos afflictions. Dans le verset 10, il dit, pour encourager cette église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce que tu vas souffrir, donc ça vient. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voici, il énumère ceux qui vont, les souffrances qu'ils vont vivre. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, vous serez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Même Jésus appelle certains à être fidèles jusqu'à la mort, au martyr. On sait d'après l'histoire, il y a une histoire assez célèbre avec un des premiers pasteurs, évêque de Smyrne, il s'appelle Polycarpe. C'était, on va dire, la génération après Jean, après les apôtres. Donc un peu plus tard, le 2e siècle, mais lui, il a connu le martyr à Smyrne. Et on peut lire le récit de sa mort et son témoignage fidèle. En tout cas, on sait que les chrétiens de cette époque, certains vont connaître le martyr. C'est 10 jours. C'est quoi ces 10 jours? Vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est 10 jours dans ce livre de l'Apocalypse où il y a quand même beaucoup de symbolisme. C'est difficile à savoir si c'est 10 jours, juste 10 jours, c'est-à-dire d'ici le 24, d'ici le 21 juillet, ou bien c'est 10 jours arrondis de semaine, une dizaine de jours, ou c'est 10 jours symboliques. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est 10 jours, c'est une période suffisamment longue pour être très éprouvant, si on est en prison, si on est torturé, ou, voilà, 10 jours, c'est très long. Mais c'est aussi borné dans le temps, 10 jours, pour espérer la fin. Vraisemblablement, cette église est passée par une courte période de persécution intense, et on sait dans l'histoire de l'Empire romain, effectivement, ça pouvait arriver. Mais il semble que déjà Jésus les encourage à tenir bon, ne crains pas ce que tu vas souffrir, en leur rappelant que leur souffrance est bornée, est limitée, est maîtrisée par lui. Et quand on sait que c'est borné, quand on sait que c'est limité, quand on peut anticiper le bout, c'est plus facile à rester fidèle. Nous avons découvert ça en famille, en randonnée. Nous avons fait la même randonnée 2 fois. Une fois le lundi, une fois vendredi. La première fois, on ne savait pas où la destination qu'on voulait. On avait tous faim. Et donc, ne sachant pas où le chemin menait, ne sachant pas quel était le bout, voilà, on s'est arrêté et on est retourné. Et après, je savais qu'est-ce qui nous attendait. Donc là, on est reparti une 2e fois. Et là, on a réussi. Et c'était le jour et la nuit par rapport à l'attitude et la motivation et la force. Quand on sait que c'est limité, si on dit aux enfants, ben, je sais jamais quand ce chemin finit, effectivement, ils sont pas très motivés. Mais quand on peut dire, c'est juste là, encore 2-3 lacets de montagne, on arrive au sommet. Là, ok, on fait l'effort. Et c'est comme si c'est ainsi que Jésus parle à cette église. Vous aurez une tribulation de 10 jours, certaines même la mort, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle. Alors 10 jours, bien sûr, ce n'est pas toujours 10 jours. Hein. Il suffit de regarder un peu l'histoire de l'Église persécutée, que ça soit au temps ancien, au temps moderne. On sait que les gens ont vécu des choses bien plus longues que 10 jours. J'ai relu un peu la vie et le témoignage de ce pasteur roumain à l'époque communiste. Il s'appelle Richard Rumbrand. C'est lui qui est devenu un peu la voix des martyrs, la voix de l'Église persécutée en Occident, parce qu'il a pu en sortir. Mais lui, il a fait 3 ans dans un cachot. 3 ans dans un cachot, sans lumière, sans aucun contact humain, sans bruit, sans jamais sortir, 3 ans. Il a fait 14 ans de prison en tout. Donc c'est bien plus que 10 jours. Et puis lui, quand il est sorti, il savait qu'il y avait des gens en prison, que ce soit en Chine, en d'autres ou en Russie. Et il savait que voilà, il connaissait des collègues, des frères. 43 ans de prison et plus. Donc là, on est bien plus que 10 jours. Donc ce verset ne veut pas dire que chaque fois qu'on traverse une épreuve, ça s'arrête à 10 jours. Mais toutes ces personnes, eux-mêmes, Elias l'a dit, que voilà, dans ces souffrances, maintenant, avec, je sais que Jésus était là, les souffrances et nos épreuves sont dosées par Christ, sont limitées, sont bornées, même si la fin de l'épreuve, pour certains, c'est le départ en gloire, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus peut dire, ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Je serai avec toi. Je maîtrise même ce Satan qui va vous embêter. Jésus, il le contrôle plus tard. Dans ce même livre, il sera lié facilement. On pense à l'histoire de Job. Satan ne pouvait rien faire. Le diable ne pouvait rien faire contre Job si ce n'était qu'avec la permission de Dieu. Donc, ce Richard Rumbrand, il raconte l'histoire de son arrestation. C'était un dimanche matin, il partait à l'église prêcher, et puis un fourgon est arrivé dans la rue. 4 hommes l'ont pris, l'ont jeté dans le fourgon, et puis il a disparu de la circulation pendant des années à venir. Sa femme ne savait pas où il était pendant longtemps. Donc, il se trouve dans ce fourgon, et à un moment, il a un petit rire, un petit sourire, et ses bourreaux, ses capteurs, ses ravisseurs sont étonnés. Mais il s'est rappelé parce que lui, il s'était fait une liste dans la Bible de 366 fois où Dieu dit, un peu comme dans un verset, ne crains pas. Lui, il avait compté 366. En tout cas, c'était sa liste. Je ne sais pas s'il y a moins ou plus, mais ne crains pas ou l'équivalent. Dans d'autres mots, il avait compté 366 fois que Jésus dit à quelqu'un ou à son église ou à des personnes, ne craint point. Et donc, il a un petit moment de rire parce qu'il réfléchit à la date et il a été arrêté le 29 février. Le 29 février, le jour qui arrive, le 366e jour, tous les 4 ans, et il dit, voilà, j'ai un verset, j'ai une promesse, même pour ce jour du 29 février, alors je vais pas craindre, Dieu est avec moi, c'est obligé. Donc déjà, il savait que Jésus était au contrôle et qu'il limitait ses afflictions, qu'il n'y avait pas à craindre. Mais la promesse ultime qui encourage et qui nous garde dans la fidélité, c'est ce troisième point que nous allons voir, c'est Jésus nous ressuscite après nos afflictions. Chaque église, parmi les 7, est interpellée par un aspect de Jésus. Donc, écrit à l'ange, verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. » Et chaque église est offerte la promesse d'une récompense. Verset 9, « Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. » Verset 11, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Et chaque fois, l'introduction, l'aspect de Jésus qui introduit la lettre, semble correspondre à ce que vive l'Église, et la récompense aussi est comme taillée sur mesure par rapport aux défis, aux besoins de l'Église. C'est le même Jésus qui écrit à chaque Église, mais il retient un aspect différent de sa personne que nous avons vu en chapitre 1 et avec lequel il introduit la lettre, et puis il offre une récompense différente à chaque église, mais différente. En fait, chaque récompense est une image de salut, de la vie éternelle. Et ici, on met l'accent, la récompense met l'accent sur la résurrection. Et aussi la présentation de Jésus, vous l'avez vu en verset 8, il dit à cette église qui est souffrante, il dit « Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Ou bien la récompense pour la fidélité de cette église, c'est la couronne de vie. Encore la dernière promesse, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La Bible parle de deux morts. Une première qui est physique, qui peut nous atteindre tous, même fidèles, même chrétiens engagés. Mais aussi une seconde mort, c'est la mort éternelle. Ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont pas à craindre celle-là. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et à cette église, il offre la couronne de vie. Alors, creusons un peu cette image de la couronne de vie pour terminer ce matin. C'est pas tant une couronne royale, même si la couronne nous fait penser au roi, mais ici, c'est plutôt une couronne d'athlète. Les couronnes, à l'époque, il y avait des jeux, comme des Jeux olympiques, il y avait les couronnes de laurier, comme vous savez. Donc c'est comme si Jésus dit « je te donne la médaille d'or, je te donne la couronne, et je te donne la vie éternelle, l'éternité avec moi, tu seras couronné de vie pour l'éternité ». Et c'est comme les Olympiques, hein, c'est pas le bout de métal en soi, hein, je crois qu'il y a 6 grammes d'or dans un médaille d'or, alors… Déjà, c'est quelque chose, hein. On est content d'avoir 6 grammes d'or, mais c'est pas en soi tout ce que représente la couronne, la médaille. Et c'est bien plus que ça, c'est tous les honneurs, c'est les acclamations, c'est la victoire, là, c'est toute l'ambiance qui va avec d'être couronné. C'est comme si Jésus dit à ces chrétiens, tu seras assis sur le trône avec moi, tu vas pouvoir monter sur le podium avec moi. Ça, c'est tout le contraire des calomnies qui vivent, c'est tout le contraire de la pauvreté qui vivent, c'est tout le contraire de la prison qui vivent. Non, ce que Jésus leur offre, c'est la triomphe, c'est la victoire, et d'une manière très publique. Lorsqu'on est couronné, lorsqu'on reçoit la médaille, voilà, il y a toute la cérémonie qui va avec. Telle est une manière imagée de parler de notre salut en Jésus-Christ. Telle est notre destinée si Jésus est notre sauveur. Parce que oui, il faut préciser, le salut n'est pas une récompense pour le martyr ou pour une vie de fidélité. Cela a conduit à des erreurs de penser que voilà, je dois mériter une couronne. Et certaines, voilà, recherchaient même le martyr en croyant être plus spirituel ou plus saint que d'autres. Non, le salut est un don gratuit, c'est toute la Bible qui l'atteste. Le salut est offert par la foi, c'est Jésus qui a déjà vaincu à notre place, c'est lui qui a obéi parfaitement et il nous offre le salut. Et dans ce salut, c'est ça qui merveillait, dans ce salut est inclus ce don de fidélité, ce don de la persévérance où Jésus va agir en nous pour nous garder fidèles. En Christ, dit la Bible, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Mais fort de cette connaissance, fort de cette aide de Jésus, nous pouvons persévérer, être fidèles. C'est comme la randonnée quand on sait que le bout est là et que quelqu'un l'a déjà déjà monté, il peut entraîner les autres. Ainsi, ce que fait Jésus pour nous. Jésus a gagné la médaille d'or pour nous et quelque part il nous offre à monter sur le podium avec lui. Ça, c'est la récompense et ça nous motive à la fidélité de savoir que oui, un jour. Malgré ce que disent le monde, malgré ce que pense le monde, malgré ce que pensent les persécuteurs, la situation sera renversée et nous serons vainqueurs avec Christ. Donc vous voyez, ça c'est la promesse ultime. Oui, Jésus connaît nos afflictions, ça nous porte à la fidélité. Jésus les limite, les borne dans le temps, mais des fois ça va jusqu'à l'épreuve continue, perdure jusqu'à la mort. Mais cette mort devienne notre délivrance, notre libération, parce qu'il nous ressuscite après nos afflictions. Lui-même, il peut l'offrir parce qu'il était mort, et les ressusciter, c'est la preuve que cette promesse n'est pas en vain. Et il offre cette manière imagée pour qui nous aide à comprendre ce qu'est la résurrection, la couronne de vie. Donc vous voyez, sans la résurrection, l'église de Smyrne serait un très mauvais choix d'église. On ne pourrait pas conseiller Smyrne. S'il n'y avait pas la résurrection, ne fréquentez pas surtout cette église. Mais s'il y a la résurrection, c'est la meilleure des sept. Sans la résurrection, le BTM aussi serait un mauvais choix d'église. Il y a d'autres activités bien plus intéressantes à faire dimanche matin. Sans la résurrection, il vaut mieux vivre dans la crainte et la peur. Sans la résurrection, il vaut mieux abandonner en cours de route. Sans la résurrection, il vaut mieux déplorer son sort et rester abattu, alourdi, ne rien espérer. Mais avec la résurrection et avec Jésus dans notre vie, on peut assister à des transformations, à des témoignages comme celui de Rias. On peut garder notre joie dans le malheur, comme nous invitaient les chants et Étienne ce matin. Sans la résurrection, il vaut mieux ne pas risquer la communion fraternelle en présentiel avec les frères et sœurs. Mais avec la résurrection, nous pouvons, encouragés par l'Église persécutée, continuer à être fidèles dans notre foi, à notre époque, ici à Toulouse, ici en France, en 2021. Que Dieu nous aide à le faire. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à terminer en priant. Seigneur, nous te remercions pour tes paroles à cette Église souffrante. Nous reconnaissons que nous ne vivons pas exactement la même situation, mais nous avons besoin d'entendre aussi cet appel à la fidélité. Nous avons besoin d'entendre ces promesses et ces encouragements pour nous aider à rester fidèles dans les difficultés, dans les afflictions que tu nous envoies. Nous savons qu'elles sont limitées, contrôlées, dosées par toi, et nous voulons accepter avec foi, selon ta sagesse. Nous savons que un jour, l'ensemble du parcours va te glorifier. Nous l'avons vu dans la vie de Reyes ce matin. Nous te remercions pour son baptême, cette image encore de la mort et de la résurrection. Lorsqu'on sort des eaux, eh bien, nous allons pouvoir tous vivre ça un jour. Traverser la mort, mais en sortir vainqueur, victorieux, par la résurrection. Ça, c'est la promesse de l'Évangile, c'est garanti par la croix et la résurrection de Jésus. Et c'est lui que nous voulons que nos vies glorifient, quelles que soient les circonstances. Encore ce matin, nous te prions pour les églises qui vivent les mêmes persécutions, la même ambiance que l'église de Smyrne. Nous savons que ça existe, nous l'avons évoqué en Inde, nous savons aussi ailleurs. Et nous te prions de fortifier la foi de ces chrétiens, de ces frères et sœurs. Et nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et nous te prions que tu restes le Dieu fidèle qui accompagne chacun. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.